Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Air Divois et c'est l'heure de l'interview avec au studio Delphine Rudiansky. Bonjour.
Bonjour.
Delphine, vous agissez au sein de France Service et vous êtes là pour nous parler des propositions faites par France Service concernant le numérique. D'ailleurs, vous-même êtes conseillère numérique et vous pourrez peut-être nous présenter aussi les possibilités proposées par ce service. Alors, avant tout, on peut peut-être présenter ce qu'est l'agence France Service,
oui,
pour la population, hein, parfois des personnes ne connaissent pas forcément, bien que quand même.
Tout à fait. Alors, moi je suis donc conseillère numérique. Alors j'interviens au sein de la structure de France Service, mais je suis employée par la ville de Die. Donc il faut savoir que France Service, donc, c'est une compétence de la communauté de communes. Donc mon collègue Emmanuel Mourier est employé par la communauté de communes et moi je suis employée par la ville de Die. Donc on travaille en étroite relation avec les collègues de France Service qui, eux, en fait, interviennent plutôt sur les démarches administratives pures. Et nous, on est plutôt sur le volet numérique. Donc on est là, en fait, pour aider les usagers. Donc, c'est toute la population, hein, les habitants de Die et du Diwa, à mieux utiliser, en fait, les outils numériques.
Alors, pour vous, ces propositions occupent la majeure partie du Diwa. Vous êtes en binôme, donc, avec Emmanuel, qui, lui, est chargé, donc, d'accompagner plutôt sur le Diwa, globalement, et vous, Delphine, plutôt sur la ville de Die.
Oui, c'est ça. Donc, lui intervient sur tout le Diwa. Moi, comme je le disais juste à l'instant, j'interviens à France Service, lui aussi. Et on a aussi des permanences à l'espace social. Et j'ai un temps également en mairie. Tous les jeudis, je suis en mairie et je peux recevoir sur rendez-vous.
Alors, qu'est-ce qui est proposé à cet abord du numérique? Il y a toutes les déclinaisons possibles qu'on peut trouver aujourd'hui, hein, entre le smartphone, la tablette, l'ordinateur, l'internet, les emails, les SMS, la photographie aussi. Quelles sont vos propositions vis-à-vis de toutes ces possibilités techniques?
Alors, on peut recevoir les personnes sur des temps individuels. Donc, c'est-à-dire lors de rendez-vous, on consacre une heure à une problématique donnée. Donc, l'usager arrive avec son besoin, sa problématique. Et puis, nous, on va essayer de déblayer un petit peu tout ça pour et répondre aux besoins, mais aller aussi au-delà pour donner, on va dire, du pouvoir d'agir à la personne, essayer de comprendre un petit peu dans quoi elle évolue, cette personne, au regard des outils qu'elle utilise. Donc ça va être sur des temps de rendez-vous individuels. Et puis, on a des temps de permanence ouverts où il n'y a pas besoin de prendre des rendez-vous. Et puis, s'il y a juste une petite question qui bloque un usage, on va pouvoir y répondre. Enfin, on va essayer d'y répondre, du mieux qu'on peut. Et puis après, on a des temps d'ateliers collectifs où là, où on propose en fait des thématiques donc autour des usages du numérique. Donc ça va être soit pour Emmanuel, ça va être plutôt des ateliers de pratique. Donc les gens viennent et puis en fait ils vont faire par exemple s'ils ont un besoin autour des outils d'Excel ou du traitement de texte ou autre, ils vont pouvoir pratiquer dans ces temps-là. Ça peut être aussi autour de comprendre un petit peu ces histoires de stockage sur les appareils, parce que souvent on est confronté à ça, des personnes qui viennent nous voir en nous disant je sais pas, je comprends pas, mon smartphone me dit qu'il est plein, mais je comprends pas pourquoi, je sais pas où. Donc nous, on va essayer de leur faire comprendre en tout cas toutes ces histoires de stockage, que ce soit en local, que ce soit dans le cloud, que ce soit lié à des comptes Google, Microsoft, tout ça. Donc voilà, donc c'est sur ces temps en collectif qu'on peut aborder tout ça. Et puis voilà.
Et les personnes qui viennent à votre rencontre sont de toute génération ou il y a plus une catégorie d'âge qui est importante?
Alors, nous, on s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'âge prédéfini. C'est vraiment pour tous les usagers, tous les âges, toute la population d'Iwaze. Donc, ça peut être des jeunes, ça peut être des seniors. Alors, bon, au regard de notre activité, on ne va pas se mentir, on accompagne plutôt des seniors. Maintenant, c'est pas une évidence, quoi.
Et chacun a son propre matériel parfois, ou alors il y a après ce côté plutôt France Service qui met à disposition des ordinateurs pour procéder aux démarches administratives notamment. Ces personnes qui sont dotées de matériel, hein, que ce soit des smartphones, des ordinateurs, sont parfois elles-mêmes dépassées par la technologie.
Oui, tout à fait. Donc, nous, on peut accompagner effectivement des personnes qui ont leur propre matériel et qui ont envie d'évoluer avec ça. Après, il y a aussi des problématiques qui peuvent se poser juste à de la connexion à des comptes en ligne. Et ça, on peut le remarquer avec des personnes qui viennent dans les espaces publics numériques. Donc, que ce soit à France Service ou à l'espace social, il y a à disposition des ordinateurs où les gens peuvent venir consulter leur boîte mail ou autre et aussi faire des impressions. Donc nous, on intervient sur les deux champs. S'il y a des gens qui sont bloqués sur les ordinateurs de l'espace public numérique, on peut les accompagner. Et puis là, il y a une chose qui est un peu la fatalité du moment, c'est ce passage sous Windows 11, où là, on est actuellement pas mal mobilisé sur cette question-là, parce qu'on commence à avoir des appels de gens qui sont un peu inquiets au regard de ce passage sous Windows 11.
Quelle est la difficulté principale ?
Eh ben, c'est lié au matériel lui-même, parce qu'en fait, donc Microsoft a décidé de contraindre les usagers en fait, au passage à Windows 11, sauf que tous les ordinateurs ne sont pas compatibles avec ce passage-là. Et il a été annoncé au 14 octobre que Windows 10 ne serait plus pris en charge. Alors, ça ne veut pas dire que l'outil en lui-même ne va plus fonctionner. C'est juste que les mises à jour de sécurité ne seront plus données, en fait, par Microsoft. Donc, ça, c'est une chose là qui commence à nous occuper. Et on a cette info-là. Donc, c'est pas mal que je la donne maintenant parce qu'en fait, on a cette info que Microsoft donc, a rallongé ce délai-là d'un an. Alors, il y a des conditions à remplir. A priori, il faut créer un compte Microsoft et puis il y a quand même quelque chose à faire. Nous, on peut accompagner sur cette question-là parce que ça, c'est une question du moment. Et il y a d'autres choses qu'on peut faire. Donc, c'est pas mal de se dire qu'on prend la question en main maintenant et puis on se donne l'année là pour réfléchir à qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce que notre ordinateur est capable de passer sur Windows 11? S'il ne l'est pas, est-ce que peut-être on passe sur un autre système d'exploitation de type Linux? Si l'appareil est vraiment trop vieux, est-ce qu'on ne change pas d'appareil? Voilà, c'est des questions auxquelles nous, on va répondre. Et puis, on peut accompagner tout à fait là-dessus.
Le service que vous proposez tend aussi à ce que les personnes qui viennent vous voir puissent être autonomes avec ces outils. Est-ce que cela prend une bonne voie? Est-ce que vous avez le temps nécessaire pour justement répondre à cette demande?
C'est l'idée. Alors l'idée, c'est que les gens deviennent autonomes, effectivement. Maintenant, c'est complexe comme objectif parce que il peut y avoir pas mal de paramètres à prendre en compte. Je dirais que ça dépend des personnes. En fait, il y a des personnes qu'on accompagne sur du long terme et qui peuvent acquérir de l'autonomie, mais sur des petites choses et où c'est déjà satisfaisant en fait. Nous, on n'a pas pour mission de rendre autonomes les gens à 100% et de devoir faire un retour là-dessus. Maintenant, moi, je dis toujours, c'est que chaque petite chose apprise et acquise, eh ben, c'est déjà bien, en fait. Et j'ai des personnes que j'accompagne au long cours qui sont hyper fiers de me dire « Ah ben ça, maintenant, j'y arrive et c'est grâce à vous ». Donc voilà, c'est satisfaisant pour les deux parties. Et oui, bien sûr que l'autonomie, c'est quelque chose d'essentiel. Maintenant, on fonctionne avec des outils qui sont complexes et de plus en plus complexes pour beaucoup de gens. Ça demande une gymnastique cérébrale assez importante. Et puis, moi, c'est ce que je dis toujours, si le besoin n'existe pas, bah, ça ne sert à rien de le créer. Et puis, il y a des personnes qui ne peuvent pas fonctionner avec ces outils-là parce que c'est trop complexe pour elles, quoi. Donc, ça ne sert à rien de s'obstiner. Nous, on est là pour accompagner. S'il y a des besoins ponctuels, on accompagne. Et si des personnes ne peuvent pas aller vers l'autonomie, on ne va pas les forcer.
Comme tout outil, parfois on l'utilise mal ou alors on essaie de découvrir comment ça fonctionne et parfois on dérègle son ordinateur. Ça, c'est une problématique que vous rencontrez souvent.
Oui, bah, c'est... on est tous dans la bidouille, hein, souvent, avec beaucoup de choses, hein, au-delà du numérique même. Mais effectivement, c'est des outils qu'on nous a mis dans les mains. La dématérialisation a accentué le fait que bah il faut s'en servir. Donc, les gens ils vont par eux-mêmes et puis ils tâtonnent et puis ils essayent. Et des fois ça marche, des fois ça marche pas. Quand ils viennent nous voir et que tout est, alors je dirais pas déréglé, mais en tout cas tout ne fonctionne pas par un simple chemin. Nous on essaie d'expliquer en fait plutôt un chemin plus simple d'accès pour elles, plutôt que de faire des détours pour arriver à une finalité qui est la même.
Alors tout cela, ça se propose comme service sur le DIWA avec Emmanuel. Donc lui est présent sur environ 8 villes, 8 villages du DIWA. Hein. Mm-hmm. Alors Luc-en-DIWA, Châtillon-DIWA, Solors, Luste, La Croix-Haute, Recoubeau-Jansac, Val-Drôme, La Motte, Chalencon et Saint-Julien-Anquin. Ces ateliers qui ont lieu, donc, ou ces permanences, sont-elles où vous amenez le matériel sur place pour proposer ces services ?
Alors, quand il est en déplacement, c'est plutôt, on va faire avec l'utilisation des outils propres des personnes. Et ce que je voudrais juste rajouter, c'est que c'est surtout un service gratuit. Donc, là, il se déplace sur plusieurs communes. Et à chaque fois, en fait, on est dans des accompagnements où on prend le temps d'accompagner gratuitement les personnes. Ça, c'est important de le dire, ouais.
Le réseau, justement, est-ce que la fibre est bien installée sur l'ensemble du DIWA ou il y a encore des carences ?
Non, on constate encore qu'il y a des endroits où ce n'est pas effectif, notamment pas si loin, là, dernièrement, il y a 2 jours, où j'ai constaté qu'une personne à Solors, donc qui est quand même assez proche de Die, n'avait pas encore, ils n'étaient pas encore à la phase où tout le monde était desservi par la fibre. Ouais. Donc il y a encore du travail là-dessus. Ouais.
Parmi toutes ces propositions, il y a différents ateliers. Hein. Il y a découvrir les opportunités de mon territoire, prendre en main l'outil numérique, utiliser les opportunités du numérique, réaliser mes démarches en ligne, on en a déjà parlé, échanger avec mes proches ou trouver un emploi ou une formation. Ça, c'est effectivement abordable hein, avec les services numériques. Alors, comment sont proposés justement ces ateliers ou ces prises en charge? Est-ce que c'est vous organisez parfois des ateliers communs ou alors vous abordez aussi ces thèmes à l'individuel?
Les deux. On a ça sur les ateliers collectifs et sur des temps individuels. Là, ce qui me paraît important de rappeler, c'est peut-être les jours où on propose les ateliers collectifs. Donc, pour ma part, c'est les mardis après-midi. Et c'est à l'Espace France Service, donc entre 14h et 16h, 14h30, 16h30, ça dépend. Et Emmanuel, donc, comme je le disais en tout début, donc c'est plutôt les mercredis après-midi où il fait ses ateliers de pratique numérique. Et dans tous les cas, nous, on fonctionne sur inscription. Donc, si y a un atelier qui paraît pertinent à des personnes, elles nous appellent, elles s'inscrivent et nous, on met notre atelier en fonction de la thématique qu'on a décidée. Ça paraît dans le journal du DIWA. Donc, on met chaque semaine, en fait, les ateliers qui vont avoir lieu. Après, alors personnellement, je ne suis pas très forte sur la communication sur les réseaux. Donc, ce qui est peut-être antinomique, peut-être pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça apparaît aussi à l'Espace France Service. Et dans tous les cas, il suffit de nous appeler pour savoir quel sera le prochain atelier ou d'envoyer un SMS. Et nous, on communique là-dessus sans problème.
Cet Espace France Service, on peut peut-être rappeler son adresse ?
Oui, c'est le 200 avenue de la Clairette. Donc, c'est vers Intermarché, en face du Petit Primeur, dans les bâtiments du CFPPA.
Cette possibilité du numérique et ces propositions, sont-elles considérées par le public qui vient vous voir ou alors lui-même découvre des services qu'il ne soupçonnait pas ?
Par rapport à la proposition qu'on a, nous ?
Oui, mais aussi ces abords que permettent le numérique aujourd'hui.
Alors nous, on essaye toujours d'ouvrir. En fait, on a toujours une part dans les accompagnements qu'on fait. On a toujours une part de ce qu'on appelle la culture numérique. Donc, c'est-à-dire que on essaye d'explorer et de transmettre des connaissances en lien avec tous les possibles, toujours au regard de qui on a en face de nous. Oui, il y a des personnes qui découvrent, il y a des personnes qui sont déjà très au clair avec tout ça et avec qui on a des belles discussions. Ça peut aller jusqu'à des discussions très philosophiques sur le sujet. Hein. Donc, nos échanges, ils sont très, très variés. Ouais.
Et donc, il y a tous ces outils. Hein, et vous êtes là aussi peut-être pour prévenir de certains dangers ou d'intrusions notamment
oui.
Pirates.
Oui, tout à fait. Là, cette année, on met le focus sur des actions concernant la cybersécurité. Donc, tout ce qui concerne les arnaques en lien avec les outils numériques. Donc, on a fait une intervention la semaine dernière, une petite action sur le marché où Emmanuel est tous les mercredis, sauf en cas de mauvais temps. Nous, ça nous permet en fait d'aborder ce sujet, alors qui est pas très sexy hein, en soi. C'est sûr que se préoccuper de la sécurité de nos outils numériques, c'est pas le sujet numéro un dans une conversation. Mais au regard de ce que nous on a comme retour en fait des usagers sur ce qui leur arrive, on se dit que c'est dommage d'attendre d'avoir vécu une expérience négative pour s'en préoccuper. Donc, c'est là où nous, on essaye de faire de la sensibilisation en amont pour dire ce qui. Enfin, comment ne pas se faire arnaquer. Après, on a beaucoup d'informations à ce sujet-là au niveau des banques, ils communiquent beaucoup. Sur beaucoup de sites internet, on vous dit attention à ceci, cela. Mais il arrive encore que des personnes puissent se faire arnaquer. Donc là, on est sur de la sensibilisation, mais aussi sur de l'accompagnement après coup. Si jamais les personnes ont subi des cybermalveillances, on peut accompagner sur ce sujet-là, ouais, effectivement.
Il y a aussi cette découverte des territoires avec ces opportunités. Quelles sont-elles ? Et est-ce qu'il y a des services précis, justement, sur le DIWA pour ces mises à connaissance ?
Nous, on va plutôt orienter sur, comme je disais, par rapport aux besoins de la personne. Donc, sur connaître les opportunités de son territoire, ça veut dire, est-ce que je suis au clair avec, je ne sais pas, le service qui gère les transports sur le DIWA, comment je peux faire pour réserver tel ou tel truc, pour avoir une information sur un service de la communauté de communes. Enfin, voilà, ça va être assez large. Nous, on a une connaissance du maillage territorial qui est assez fine. Donc, on va pouvoir orienter, en tout cas, vers les services qui pourrait correspondre à la demande de la personne. Ouais.
Il y a, je reviens un peu là-dessus, sur les démarches en ligne, hein, administratives notamment. Est-ce qu'elles sont fiables aujourd'hui? Est-ce que les services répondent logiquement aux demandes, ou alors est-ce que parfois des bugs se produisent et peut-être désarçonnent l'utilisateur néophyte?
Il peut y avoir effectivement encore et toujours, je pense que ça ça existera toujours, des bugs de maintenance. Ça, on a à y faire souvent à France Service, où l'usager veut faire une démarche et puis, en fait, bah, le site n'est pas accessible parce qu'il est en maintenance ou qu'il y a un bug technique. On n'est pas à l'abri de ça. Les piratages des sociétés, c'est pareil. Donc, il peut y avoir... Alors, enfin, là, on parle de la démarche administrative, donc c'est... Je mélange un peu les deux, mais en tout cas, pour dire que... Il n'y a pas de système fiable à 100%. Ça n'existe pas, même au-delà du numérique, j'ai envie de dire. Donc, c'est sûr que des fois, ça peut attiser un peu la colère de certains parce que quand une personne vient à France Service, possiblement, c'est qu'elle a un réel besoin d'accompagnement sur la démarche administrative. Et c'est toujours un peu frustrant de se dire, bah, voilà, j'ai eu cet élan-là, j'étais de bonne volonté pour le faire, et puis en fait, bah, on m'empêche de le faire. Donc ça, nous, on fait remonter. Généralement, l'équipe est plutôt opérationnelle sur ce point-là. Et quand il y a vraiment des dysfonctionnements trop importants de notre regard, c'est des choses qu'on fait facilement remonter, ouais.
Donc, vous avez aussi cette mission de signaler les problèmes qu'on peut rencontrer sur ces réseaux numériques. Vous les adressez à quel service? Au service compétent? Ou alors, est-ce qu'il y a un service qui regroupe un peu toutes ces difficultés, ces signalements? Et quelles sont les suites données à ces signalements?
Non, c'est plutôt les services dédiés. Ouais, effectivement, si c'est un problème sur le site de la CAF, eh ben, on va faire remonter à la CAF. Si c'est sur le site d'Amélie, on va faire remonter à l'assurance maladie. Donc, c'est vraiment assez ciblé. Après, moi, personnellement, les retours qu'ont les collègues sur des situations données, je ne les ai pas parce que c'est vraiment... Donc ça appartient pour le coup plus à l'équipe de France Service de gérer ça. Nous, en tant que conseiller numérique, donc avec Emmanuel, on travaille en étroite collaboration avec eux, mais on n'est pas considérés comme des agents France Service. Donc, c'est là où la différence se fait. Nos collègues, ils sont purement sur de la démarche administrative, alors que nous, on peut accompagner sur de la démarche administrative, mais c'est plus dans l'idée de dire comment je prends en main le site de manière autonome. C'est plus dans cette idée-là.
Voilà, vous ne participez pas à l'instruction des dossiers, donc.
C'est ça.
Et puis, il y a les échanges avec les proches. Alors ça, c'est par le biais d'ordinateurs, de tablettes aussi, ou de smartphones. Est-ce qu'il y a des conseils à donner, justement, lors de ces échanges? Est-ce qu'il y a des problèmes qui peuvent survenir?
Ouais, alors échanger avec ses proches, c'est plutôt comment on échange, en fait, avec quel outil. Maintenant, on a démultiplié le nombre d'outils pour être en relation. Donc, on a les bons vieux appels, hein, on peut toujours appeler ses proches, les SMS. Et puis, au-delà de ça, on a toutes les messageries instantanées, pardon, de type WhatsApp. Maintenant, se démocratise un petit peu plus Signal, Telegram. On a toujours Messenger, qui est l'application de messagerie de Facebook. Et puis, possiblement, des outils de visio où on peut être en lien directement. Là, nous, on va donner plutôt des conseils sur comment utiliser ces outils au regard toujours du besoin de l'usager. Qu'est-ce que ça vient questionner aussi derrière? Par exemple, moi, je dis toujours que WhatsApp, c'est un outil que je boycotte parce qu'il appartient à l'entreprise Meta, qui est un des gros GAFAM et qui au regard de leur politique de confidentialité des données des usagers, peut paraître problématique. Donc, alors, moi, c'est mon positionnement sur cet outil-là, à savoir que c'est celui qui est le plus utilisé. Donc, nous, on va... moi, je vais porter un point d'attention là-dessus à l'usager. Je vais lui transmettre des informations de ce type-là. Et puis après, la personne décidera bien de qu'est-ce qu'elle a envie d'utiliser et comment elle veut l'utiliser. Et c'est ça que j'appelle la culture numérique. En fait, c'est de se dire qu'est-ce que j'utilise, comment je l'utilise et pourquoi. Donc ça, c'est hyper important. Ouais.
Il y a un sujet que vous abordez aussi, c'est l'intelligence artificielle. Oui. Ce nom est bien trop long à prononcer. Hein. Si on pouvait y trouver, on pourrait dire AI. AI permet actuellement peut-être d'initier aussi les personnes débutantes à l'utilisation de ces outils. Et est-ce que vous y voyez un aspect négatif pour votre avenir également ?
Alors, l'IA, elle est partout. Et elle est partout depuis longtemps, en fait. Et là, depuis 2022, on a eu un gros boom, en fait, sur ce sujet-là. Parce qu'on a eu ChatGPT qui est sorti. Et ça a fait, dans les médias, en tout cas, ça a été une information importante. Et... depuis en fait ce moment-là, c'est vrai que c'est venu questionner un peu la place des gens dans leur métier, l'usage qu'on en fait. Enfin, là vraiment, on est sur un gros boom de l'IA. Nous aussi, ça nous a questionnés en tant que conseiller numérique. C'est vrai que moi, au début, j'avais du mal à appréhender qu'est-ce que c'est. C'était un peu le truc du moment où il fallait rentrer dedans, mais qu'on comprenait pas vraiment. Et puis, au fur et à mesure du temps, on a compris que ça reste un outil. Donc ça, nous, on part toujours de là, de se dire, c'est un outil. Voilà, c'est comme n'importe quel autre outil. Maintenant, qu'est-ce que ça vient générer, cet outil ? Ça vient générer beaucoup d'inquiétudes au regard de beaucoup de choses. Une inquiétude qui est légitime hein, quand même, parce que en termes de questions environnementales, éthiques, sociétales, ça vient un peu nous bousculer. Nous, notre positionnement, il est de toute façon, en tant que conseiller numérique, il est toujours de rester neutre. Donc, c'est d'exposer... quels sont les bénéfices de l'utilisation d'un outil IA, mais questionner aussi les problématiques que ça vient soulever. Et ça, on va le faire là prochainement dans un format collectif. Donc, on propose des ateliers qui s'appellent des cafés IA, où en fait, c'est un espace d'échange et de partage de connaissances sur l'IA. Donc, toujours accessible à tous. Hein. Ça, on part toujours sur la même notion. Et puis, ça va être des débats, de la réflexion sur, justement, ces outils-là. Et pour apprendre aussi, expérimenter et acquérir toujours dans la même idée du pouvoir d'agir. Ouais, c'est bon.
Et donc... il y a, comme tout outil, alors vous parlez d'outil, mais l'outil, c'est cet objet qui est dans la continuité de la main de l'homme pour exercer. Mais là, est-ce que c'est encore un outil quand on peut considérer que l'intelligence artificielle elle-même tendrait à être autonome ?
Oui, effectivement, je peux entendre ça. Dans outils, on entend en fait le fait d'utiliser quelque chose à une certaine fin. Pour l'intelligence artificielle, je vais possiblement utiliser un outil d'intelligence artificielle pour générer un texte, pour générer une image, générer une automatisation de quelque chose. Donc, C'est dans ce sens-là qu'on entend outils. Ce qu'on aime à rappeler aussi avec Emmanuel, c'est que derrière tout ça, il y a toujours un humain, en fait. La machine ne fonctionne pas seule. Alors, si on commence à parler de deep learning, là, on est sur un autre niveau, effectivement, où la machine apprend d'elle-même. Mais moi, j'aime bien juste dire simplement, en fait, on débranche la machine, bah, il ne se passe plus rien. Donc, en fait, elle ne fonctionne pas seule. Elle est toujours là, sous l'intervention d'un être humain. Ouais.
Il a été aussi indiqué que l'intelligence artificielle souffre parfois d'hallucinations. Oui. On ne connaît pas le pourcentage. Hein. Moi, j'avais entendu, c'était il y a 2 ans, ça a dû beaucoup baisser depuis, mais c'était de l'ordre de 30% de propositions d'hallucinations sur ce que propose. Quel est le cas aujourd'hui? Et est-ce que ça peut provoquer justement une incidence sur un fonctionnement?
Oui. J'ai pas effectivement le pourcentage là. Dernièrement, je me suis pas renseignée là-dessus, mais c'est tout à fait vrai que ces outils sont toujours perfectibles. Donc, il peut y avoir ce qu'on appelle des hallucinations, c'est-à-dire que le système fournit des informations qui seraient fausses. C'est pour ça que ce qui est important de retenir quand on utilise en tout cas les outils d'IA, c'est de se dire que ce n'est pas un outil qu'on va utiliser pour une fin en soi. Donc, si j'ai besoin de... Alors, on va prendre un exemple tout bête. Par exemple, je suis un élève à la cité scolaire du Diwa. J'ai besoin de faire un devoir sur un sujet donné. Je ne sais pas, en histoire ou quelque chose comme ça, le plus prudent, c'est de se dire que je ne vais pas générer tout mon devoir grâce à l'IA parce que, possiblement, il y aura des erreurs. Donc, c'est bien de le faire en soutien, de se dire que c'est une aide à la compréhension de plein de choses, mais il ne faut pas le prendre comme une vérité en tant que telle. Parce que effectivement, des fois, elle peut, comme on le disait, avoir des hallucinations. Et le modèle de base, c'est quand même de faire de la complétion, c'est-à-dire que en fait, l'intelligence artificielle, elle va générer un mot après l'autre dans ce qu'il y a de plus probable. Donc, en fait, si vous lui demandez je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple là tout de suite, mais de générer un texte sur... Vous lui posez une question sur comment fonctionnent les ordinateurs. Tiens, voilà. En fait, dans toutes les connaissances qui sont intégrées dans sa base de données, la probabilité pour que tel mot arrive après tel mot et forme une phrase et forme un sens, en fait, ça va être donné dès le départ. Donc, c'est assez bête, on va dire, comme système, parce que, du coup, ça ne réfléchit pas au sens de la question. Ça va juste donner, en fait, une réponse en mettant des mots les uns après les autres, tout simplement.
Vous-même, Delphine, est-ce que vous avez utilisé cette intelligence artificielle à des fins personnelles? Et quelles sont vos impressions? Est-ce que c'est un outil qui permette peut-être de vous accrocher, de vous retenir quelque part par cette intrigue qui émane de cet ordinateur?
Alors, moi,
cette curiosité, peut-être,
ouais,
aussi.
C'est un outil que j'utilise très peu, personnellement. Ça va être très ciblé quand je le fais. C'est quand je me dis que j'ai une question très précise sur quelque chose que je ne pourrais pas avoir avec une recherche Google ou autre, simplement. Je l'ai déjà fait avec quelques usagers, mais vraiment très peu, pour écrire une lettre officielle pour une personne en fait qui possiblement ne parlait pas bien la langue française, qui avait une lettre officielle à faire à une administration et qui avait l'idée en tête de dire il faut que j'axe le courrier dans tel sens, Mais moi, je ne sais pas formuler tout ça. Donc, en fait, on a juste fait une requête avec un outil en lui demandant de générer une lettre de manière officielle pour une administration publique. Et c'est vrai que le rendu était plutôt pas mal. Donc, ça peut... Voilà, c'est en ça que je dis que c'est un soutien et une aide qui peut être apportée à certains moments. Maintenant, à savoir que si on part dans des considérations écologiques, chaque requête, on creuse un peu plus le trou dans la planète, quoi. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai à cœur de, pour moi-même, l'utiliser avec parcimonie. Et le message que je donnerais, c'est plutôt ça, c'est de faire attention à ne pas l'utiliser à tout va, pour tout et n'importe quoi, pour des requêtes qui n'ont pas de sens et juste pour jouer avec. Derrière, c'est déjà au-delà de ce qu'on peut considérer comme impact environnemental. Si on met ça en comparaison à de la vidéo, par exemple, parce que le streaming, c'est ce qui aussi a un gros impact écologique. Bah là, on est carrément au-delà. Là, je n'ai pas les chiffres tout de suite là, avec moi, mais c'est assez impressionnant. Ouais.
Je rappelle aussi donc, cette présence au marché d'Audi ou à l'ESCDD hein, tous les mercredis de 9h à midi avec Emmanuel Mournier pour conseiller toute personne. Que dire d'autre ? Est-ce qu'il y a un site ou une page pour pouvoir trouver aussi tous ces horaires, ces rendez-vous ?
Oui, alors sur le site de la communauté de communes, dans la section où il y a France Service et la médiation numérique, donc il y a toutes les infos concernant Emmanuel. Donc on retrouve le flyer dédié. Et j'ai également moi une petite encart, une section dédiée sur le site de la mairie. Où on peut aller consulter les informations.
Il y a un mot-clé peut-être à taper ou...
Peut-être médiation numérique, ça peut marcher.
Je mettrai les liens sur la page de l'émission.
Oui, ça peut être pas mal. Après, nous, on a des pages Facebook qu'on n'anime pas beaucoup, honnêtement. Et puis après, le mieux, c'est toujours de se retrouver... en physique, on est présent dans plusieurs lieux, donc ça permet quand même sur toute la semaine de pouvoir nous contacter facilement. Juste ce que je voudrais dire sur les cafés IA qu'on va proposer, peut-être les dates. Donc là, nous, on propose un format de café IA donc, pour parler de tout ce qui a trait à l'intelligence artificielle dans notre quotidien. Donc, il y a un premier temps collectif le 14 octobre, donc c'est là bientôt, de 14h à 16h. Et on le fera donc, à côté de France Service, il y a les anciens bâtiments des services techniques qui maintenant sont dédiés à des bureaux de la communauté de communes. Donc, c'est le bâtiment qui s'appelle Pierre Pointu. Donc, c'est 150 avenue de la Clairette. Donc, on fera nos ateliers là-bas. Donc, la première date, le 14 octobre, de 14h à 16h. Et puis, la prochaine date, ça sera le 28 novembre, de 17h à 18h30. Donc, on a tenu à faire une proposition aussi en soirée, en se disant que peut-être il y a des gens qui ne sont pas disponibles en journée et qui aimeraient quand même bien parler de tout ça. Donc voilà, ces deux dates sur cette thématique-là. Mais après, on a toujours les autres thématiques sur lesquelles on peut s'inscrire en collectif.
Est-ce que les personnes qui viendront devraient se doter de leur matériel ou c'est juste plutôt de la théorie ?
Non, on est plutôt sur, comme je le disais, le format du café IA, c'est un espace d'échange où nous, on va apporter quelques éléments de connaissances. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire qu'on va débattre pendant une heure et demie sur ce sujet-là. Alors, débattre, ça ne veut pas dire critiquer. Ça veut dire, en fait, s'apporter des connaissances les uns les autres. Moi, j'aime bien le format éducation populaire, de se dire que chacun apporte sa connaissance. Et puis, on peut partager dans cet espace-là. À savoir que nous, on fait des retours. Enfin, on va faire des retours sur ces temps collectifs sur l'IA. de savoir ce qui s'est dit dans ce temps d'échange, comment ça pourrait être amélioré, quels sont les points qui ont été soulevés pendant ces temps-là. Et ça, nous, on le fait remonter, en tout cas, via une plateforme sur laquelle on fait nos comptes rendus. Donc, ça peut être vraiment intéressant d'avoir du bon contenu lors de ces temps-là.
Ces retours seront accessibles au public sur ces plateformes ou ça reste plutôt un outil de travail pour vous-même ?
C'est plutôt pour nous, effectivement. D'accord. C'est nous qui allons les faire.
Et je reviens un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à certaines personnes qui viennent vous voir, qui ont des grandes compétences en numérique. Est-ce que ce qui entraîne des discussions philosophiques, comme vous le disiez, est-ce que l'intelligence artificielle est un de ces sujets de conversation ? Et est-ce que ces personnes mêmes peuvent vous aider ou amener leur aide à vous soutenir ou à vous seconder auprès de personnes ?
De toute façon, c'est une démarche qui est participative, collective. Enfin, l'IA, tout le monde peut s'emparer du sujet. Et si, effectivement, on a des connaissances assez poussées sur le sujet, nous, on est toujours intéressés, en tant que conseiller numérique, d'échanger et puis d'évoluer et puis de toujours apprendre, en fait. Hein. On n'a pas une posture de conférenciers, ou en tout cas, nous, on viendrait donner toutes les billes. Non, on est toujours dans le... Enfin, on est en tout cas intéressé par l'échange, ouais.
Alors, votre mission se prête avant tout envers un public, le particulier, ou alors est-ce que parfois, vous avez des micro-entreprises, parfois, qui ont besoin d'un soutien ou d'une aide technique, ou alors aussi avec le biais de France Service ?
Oui. Alors, c'est plutôt tourné vers les particuliers, effectivement. Maintenant, il nous arrive d'aider des personnes qui sont auto-entrepreneurs. Donc ça, c'est un statut assez particulier parce que finalement, c'est des personnes qui peuvent se retrouver assez seules avec une entreprise et qui ont de la difficulté à gérer certaines démarches, notamment par rapport à l'INPI, qui est quand même un sacré morceau. Donc, on peut aussi accompagner des professionnels de cet ordre-là. Moi, j'ai déjà fait auparavant, alors je le fais moins maintenant, mais auparavant, j'ai pu en tout cas aider des commerçants. Par rapport à tous les outils de communication, des fiches Google Business et compagnie. On n'est pas bridé. Alors évidemment que c'est plutôt des particuliers qui viennent nous voir, mais on peut aussi accompagner des professionnels.
Pour finir, est-ce qu'on peut peut-être parler un peu des éclaireurs du numérique ?
Oui. Alors ça, en fait, c'est le nom du réseau que nous, on intègre en tant que conseiller numérique. Donc, c'est le département, en fait, qui a nommé ce réseau de cette manière-là, les éclaireurs du numérique, parce que, en fait, le département est engagé sur la question du numérique. On a notamment Nicolas Guichard, qui est chargé de mission développement numérique, et puis notre coordinatrice, qui est Cécile de Bombourg, qui nous accompagne sur toutes les questions au regard de notre activité. Et pour faire le lien justement avec ces cafés IA qu'on propose, le département propose prochainement un événement en novembre, plutôt vers Valence, sur tout ce qui est numérique. Et puis, il y aura pas mal de points sur l'IA. Et fait aussi un focus tout le mois de novembre sur l'IA. Donc, c'est pour ça que nous, on a voulu proposer une date au mois de novembre également, là, le 28 novembre, en référence à ce focus qui a été fait de la part du département. Donc, le réseau des éclaireurs du numérique, c'est tous les conseillers numériques qui sont référencés en Drôme pour accompagner les usagers.
Delphine Rudniowski, merci beaucoup d'être venue sur Air du Voix pour
plaisir.
Nous parler donc, de France Service. Et bonne soirée.
Merci.
Au revoir.